Chapitre 33.1 Qui se connaît soi-même est éclairé. Qui connaît les autres est perspicace. Qui se connaît soi-même est éclairé. Qui vainc les autres est fort. Qui se vainc soi-même est tout-puissant. Qui sait se modérer est riche, mais qui est énergétique a de la force de volonté. Qui ne s'écarte pas de sa nature essentielle vivra longtemps, mais qui meurt sans se perdre jouira de la vie éternelle. Avez-vous déjà découvert qu'il est extrêmement difficile de parvenir à la connaissance de soi? Si vous examinez les efforts entrepris de temps à autre à cet effet, vous vous dites en soupirant : parvenir à la connaissance de soi est absolument impossible. Il est cependant évident que c'est la première chose à faire pour arriver à se corriger. C'est pourquoi il est tragique d'avoir à constater que le grand sérieux avec lequel beaucoup s'y efforcent donne de piètres résultats. En effet, comme il est dit dans la Bible, « Celui qui se vainc soi-même est plus fort que celui qui prend une ville », ou comme l'exprime Lao Tzu, « Qui connaît les autres est perspicace ». Qui se connaît soi-même est éclairé. Observer ce que font ou non les autres et déterminer ce qui chez eux est bon ou mauvais, ce qui va de travers, ce qui est négatif et sans espoir, est l'apanage de la plupart des hommes parce qu'ils sont perspicaces, habitués à porter un jugement sur tout, partout et sur chacun. Car ils ont bien vu, ils ont bien entendu, ils ont bien compris. Il y a des personnes qui, sur les autres, peuvent tout vous raconter, dans les moindres détails. Cependant, il ne faut accorder aucune valeur à tous ces jugements. En effet, ces observateurs si perspicaces sont incapables de percevoir les mobiles intérieurs de certains actes, de certaines paroles. Ils ne peuvent, tout au plus, qu'établir des hypothèses. Pour beaucoup, l'unique base de la connaissance de soi, si nécessaire, est le jugement que les autres portent sur eux. Un ami, par exemple, ou un parent vous dira très clairement comment vous êtes, et aussi qui vous êtes. Si clairement que vous finissez par le croire. Car vos proches ne se basent-ils pas sur les faits? Quelle raison auraient-ils de présenter les choses autrement qu'elles ne le sont? Cependant, savez-vous que beaucoup, concernant la connaissance d'eux-mêmes, ont ainsi été conduits sur de fausses pistes? Votre femme, votre mari, votre frère ou votre sœur, votre compagnon vous disent « Tu es comme ça » et vous finissez par le croire. Et vous allez régler votre vie, votre état d'être, sur les conclusions des autres. Et vous penserez, pour finir, que vous êtes très avancé dans la connaissance de vous-même. Si vous êtes suffisamment objectif, vous reconnaîtrez que vous êtes de temps en temps victime de cette situation. Nous en avons la preuve classique dans le fait que Jésus le Seigneur, ainsi que d'autres grands travailleurs et leurs sublimes serviteurs, ne purent rien faire dans leur propre entourage, dans leur propre pays, vis-à-vis de leurs propres relations. Pensez à la parole historique. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Rien. Nous le connaissons beaucoup trop bien. Car connaître les hommes peut s'avérer utile et juger les autres être important pour vous. Mais quant au jugement juste, il y a dans votre vie plus d'erreurs et de malentendus que de jugements justes. Qui le comprend et ose le reconnaître, c'est aussi qu'en ce qui concerne la connaissance de soi, il est encore dans l'obscurité totale. Sur ce point, la majorité des humains sont ou trop optimistes ou trop pessimistes, mais pas le moins du monde réaliste. Comment cela se fait-il? Demanderez-vous. Tout simplement parce que l'être humain ne possède aucun organe des sens, aucun pouvoir intérieur pour se percevoir lui-même objectivement dans ses faits et gestes, et qu'il n'est pas capable non plus d'observer les émotions intérieures qui le poussent à agir de telle ou telle façon. Encore moins les mobiles de nature astrale qui se trouvent à l'arrière-plan. Le livre des causes et des effets, le livre du karma personnel, est le plus souvent un livre hermétiquement fermé en ce qui concerne sa propre vie. C'est aussi le cas de l'occultiste, pourtant très hautement informé, dit-on, de son propre état karmique. L'école spirituelle actuelle rejette l'occultisme parce qu'il offre une méthode permettant de pénétrer, au moyen de la conscience moi, jusqu'au mystère de l'existence. C'est possible, mais seulement jusqu'à un certain point. Et il en résulte toujours une conscience moi dure comme pierre et une existence entièrement mêlée à la sphère réflectrice et liée à elle. Les occultistes libèrent des influx et des forces qu'ils ont appris à craindre et tentent de fuir par des tactiques appropriées et avec une certaine ruse ou de neutraliser ce qui, à la longue, est absolument impossible naturellement. Un occultiste, pour autant qu'il se maintienne dans nos rangs, se reconnaît au fait qu'il ne peut pas ou ne veut pas abandonner l'astrologie. Dans la pratique, l'astrologie n'est pas autre chose qu'un moyen de jeter un regard intellectuel sur son propre karma. Celui-ci se révèle alors à la conscience comme une série de bons et mauvais influx et rayonnements. L'horoscope nous montre la toile d'araignée où nous sommes emprisonnés en vertu de notre naissance dans la nature. L'occultiste, suspendu à cette toile, tente de la rendre aussi riante et agréable que possible. L'horoscope ne dit rien de l'araignée qui a tissé la toile, ni de sa raison d'être. En fait, l'astrologie est une science qui offre quelques moyens de rendre la vie dans la nature un peu plus supportable. Nous ajoutons peut-être. Elle rend sans doute un peu plus prudent à l'écart de situations dangereuses et pousse à saisir l'occasion de nouvelles possibilités dialectiques si elles se présentent. Quant au reste, il ne s'agit que d'un sursis qui ne rend l'homme ni meilleur ni pire, mais seulement un peu plus habile et parfois un peu plus rusé. En ce qui concerne le salut éternel, la vie réelle et véritable, cette science ne peut rien pour l'homme. Et parce que le plus souvent les occultistes se cramponnent à elle, nous l'avons radicalement abandonnée, dans le sens où nous l'avons employée momentanément. Vous savez peut-être que nous avons donné des leçons d'astrologie dans le passé. Pendant des années, nous avons appris à ceux qui se rassemblaient dans les réunions de la Rose-Croix à dresser un horoscope et à interpréter le ciel de la naissance. Nous avons cessé, car c'est exclusivement lorsque vous recherchez l'âme et qu'à cette fin vous voulez démêler la trame du destin qu'une certaine connaissance de votre toile d'araignée peut vous être de quelque utilité en tant qu'image de la mission de votre vie. Cependant, l'étude des aspects, des buts et des pratiques de cette science est très dommageable si l'on pense parvenir avec son aide à une plus grande connaissance de soi. L'occultiste a encore bien d'autres flèches à son arc, par exemple le tarot, la cabale et la chiromancie. Nous nous sommes aussi servis de ces flèches lorsque nous étions encore jeunes, mais nous avons découvert que le chemin de la connaissance de soi était tout autre. Il serait merveilleux que vous compreniez cela dès maintenant afin que le long chemin expérimental, toujours accompagné de peines et de chagrins, vous soit épargné. Il s'agit d'apprendre à connaître un secret. Et la formule de ce secret est: premièrement, se connaître soi-même et ainsi avoir part à l'illumination. Deuxièmement, se vaincre soi-même et ainsi devenir tout-puissant. Troisièmement, déployer une nouvelle énergie et ainsi développer le pouvoir magique de la volonté. Et quatrièmement, à la fin du voyage à travers la matière, entrer dans la vie nouvelle éternelle. Voulez-vous étudier cette formule, puis tenter de l'appliquer et d'en goûter les fruits ? C'est une formule qui vient à vous de l'antique passé et porte la gloire de la vérité infaillible. Une question se pose. Comment parvient-on à la connaissance de soi afin d'avoir part à l'illumination? Et qu'est-ce que l'illumination? Pour poser cette question, on doit être riche d'une certaine expérience et avoir bu à l'amer calice de la douleur. Car c'est grâce à l'expérience que les questions montent au cœur de l'homme. Quel est le but de ma vie? Qu'est-ce que l'homme en réalité? À quoi est-il destiné? Si vous posez ces questions, non pas intellectuellement, mais parce que, pour vous, ce sont réellement des problèmes intérieurs, si ces questions s'élèvent du plus profond de votre être, alors la tendance à la recherche apparaît d'elle-même en vous. C'est un penchant qui, dès le commencement de la recherche, est ressenti comme une nécessité vitale, comme être ou ne pas être. C'est alors que s'ouvre à l'homme l'enseignement universel dans sa totalité, le plan entier de Dieu pour le monde et l'humanité. Pour l'élève, cette recherche devient de plus en plus facile. La littérature de l'école de la Rose Croix d'Or est entièrement mise à sa disposition et il l'étudie parce qu'il y est poussé par une nécessité vitale. Remarquez que lorsque nous parlons ici d'études, cette notion est fondée sur une base tout à fait différente de celle qu'on lui donne d'ordinaire. L'élève étudie, il veut savoir parce qu'il est poussé par une nécessité vitale. Il découvre alors que la conscience moi consiste seulement en une activité motrice dont le rôle est, au mieux, de maintenir en vie la personnalité. Que la personnalité n'est que la moitié de la création, qu'elle n'est qu'une base pour le vrai devenir de l'homme nouveau. Enfin, que la vie de la personnalité telle qu'il l'aperçoit actuellement n'est pas une vie digne de l'état d'être humain, mais ne concerne qu'une existence purement animale. Aussitôt que l'étudiant le comprend, et il le comprendra s'il est mu par une nécessité vitale, un point d'attouchement latent de sa personnalité s'éveille, s'ouvre et fleurit, la rose du cœur. Et dans cette rose, une voix parle, la voix de la flamme monadique, cette partie de l'homme supérieur qui, par l'intermédiaire de l'âme, doit être reliée à l'homme inférieur pour que, par ce processus, l'homme inférieur change complètement et transfigure. Lorsque ce plan devient intérieurement clair pour l'élève, qu'il s'ouvre à lui et qu'il le comprend autrement que de façon intellectuelle, lorsqu'il vit et grandit intérieurement dans le dessein que Dieu a formé pour lui, alors se produit en même temps l'illumination. Car là est la connaissance de soi, la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Voilà ce qu'est l'illumination. Et dans cette illumination, par cette illumination, l'homme s'engage sur le chemin de la victoire. La victoire sur soi.